Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommaire en cette matinée du jeudi 9 octobre. En Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains dénonce des arrestations arbitraires et illégales après l'interpellation d'un ancien ministre cadre du parti. Au Ghana, la présidence a annoncé de nouvelles mesures pour combattre l'orpaillage illégal en réponse à une pression croissante de la société civile. Le corps d'Alexandra Lumbayi, une étudiante congolaise de 21 ans, a été retrouvée hier sans vie dans une rivière au Québec, une semaine après sa disparition.
Nous avons demandé aux autorités compétentes du Canada de pouvoir procéder à l'autopsie, c'est ce qui est en train d'être fait.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Ici aux États-Unis, l'ouragan Melton, extrêmement dangereux selon les autorités, a touché terre cette nuit en Floride, balayant la côte de vents violents et de fortes pluies. Les nouvelles sportives d'Eric Manirakiza, c'est dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Une fois de plus, bonjour. Georges Léonard Sayou me rappelle. Aujourd'hui, c'est jeudi 10 octobre et non pas 9, comme je l'ai dit précédemment. En Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains, la formation politique de l'ex-président Laurent Gbagbo, a dénoncé mercredi des arrestations arbitraires et illégales après l'interpellation d'un ancien ministre, également cadre du parti. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Le secrétaire général du PPACI, Jean-Gervais Tcheidé, a accusé le parti au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, de vouloir intimider et réduire au silence toute opposition politique par la répression brutale et la terreur à un an de l'élection présidentielle de 2025. Lors d'une conférence de presse à Abidjan, il a dénoncé l'enlèvement samedi de Charles Rodel Dosso à son domicile de Bingerville, à l'ouest d'Abidjan, devant sa femme et ses enfants, par un commando d'hommes armés encagoulés. Joint par téléphone, Uyo Kanoblé, avocat de M. Dosso, a confirmé les circonstances de son arrestation en précisant que son client est accusé, entre autres, de troubles à l'ordre public. Il a été placé en détention provisoire au pôle pénitentiaire d'Abidjan pour toute la durée de l'enquête, a-t-il ajouté. Toujours selon Maître Kanoblé, les faits reprochés à Charles Rodel Dosso sont tous en relation avec la marche du 13 septembre organisée par la société civile. Ce jour-là, une marche de protestation contre la cherté de la vie avait rassemblé quelques dizaines de personnes à Abidjan, malgré son interdiction par les autorités. Une trentaine de manifestants avaient été arrêtés au cours de cette marche et dans les jours qui ont suivi. Parmi elles, 19 ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement et au paiement de 100 000 francs CFA d'amende, a indiqué Maître Kanoblé, qui défend également les accusés dans ce dossier.
Au Ghana, la présidence a annoncé hier de nouvelles mesures pour combattre l'orpaillage illégal en réponse à une pression croissante de la société civile ces dernières semaines. Cette exploitation minière illégale représente des risques sérieux pour l'environnement et la santé des mineurs. Les précisions de Nanit Talani.
L'exploitation minière illégale, localement appelée Galamsi, fait peser de graves risques sur l'environnement en polluant les sols et les cours d'eau du Ghana, premier producteur d'or d'Afrique. Le président Nana Akufo-Addo a annoncé le déploiement de personnel militaire supplémentaire par le déploiement de bateaux sur les cours d'eau pollués pour s'assurer de toutes les activités minières, légales ou illégales, autour de ces cours d'eau. Des tribunaux dédiés aux infractions liées à l'exploitation minière illégale seront également établis, indique la présidence. L'exploitation minière illégale menace la culture du Ghana, un secteur crucial pour le pays. En plus, des dizaines de mineurs ont été tués dans l'effondrement depuis ces dernières années, d'après les ONG. Les hôpitaux et centres de santé font état d'un nombre élevé de décès dus à des maladies pulmonaires chez les mineurs et les habitants des localités à proximité des mines. Par ailleurs, le Galamsi génère des revenus pour des mineurs, mais prive le pays de recettes fiscales, car la majorité de l'or est exportée clandestinement avec environ 70 à 80% de mines qui opèrent sans licence.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté hier pour une prolongation des investigations sur des violations des droits humains au Soudan, où les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan sont en guerre depuis avril 2023. Nathalie Bach.
23 des 47 membres du Conseil se sont prononcés en faveur d'une prolongation d'un an de la mission internationale d'enquête. Le Brésil, la France, l'Afrique du Sud et les États-Unis comptent parmi les pays ayant approuvé le texte, tandis que 12 pays se sont prononcés contre, comme la Chine, l'Indonésie et le Maroc, et 12 autres se sont abstenus, comme l'Algérie, l'Inde et la Malaisie. Avant le vote, l'ambassadeur soudanais, Hamid Hassan, a déclaré que le Soudan rejette cette résolution qui, selon lui, assimile une armée nationale remplissant son rôle à une milice rebelle. L'ambassadrice américaine, Michelle Taylor, a rappelé que le Soudan est devenu la crise humanitaire la plus grave au monde. Les deux camps sont accusés d'avoir visé des civils et bloqué de l'aide humanitaire. La mission d'enquête est présidée par l'ancien président de la Cour suprême de Tanzanie, Mohamed Chande Othman. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 10 millions de déplacés ou réfugiés. Environ 26 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sévère et la famine a été déclarée dans le camp de Zamzam au Darfour.
Plus de 79 millions de femmes et filles ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles en Afrique subsaharienne. C'est ce qui ressort des données publiées ce jeudi par l'UNICEF. Selon l'agence onusienne pour l'enfance, une femme sur cinq a été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol avant l'âge de 18 ans dans cette région du monde. À l'échelle mondiale, 370 millions de filles et de femmes ont été victimes de violences sexuelles, estime l'UNICEF.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ouragan Melton, extrêmement dangereux selon les autorités, a touché terre cette nuit en Floride. Il a balayé la côte de vents violents, de fortes pluies et inondé le centre de cette péninsule du sud-est des États-Unis. Les précisions d'Abdou Ramandia.
Rétrogradé en fin de journée d'hier en catégorie 3 sur une échelle de 5, mais toujours considéré comme majeur, Milton a touché terre sur la côte ouest de la Floride, près de Siesta Key, dans le comté de Sarasota, selon le Centre américain des ouragans. Escorté par des vents extrêmes et de fortes pluies, l'ouragan a provoqué des inondations soudaines, précise le bulletin du NHC. Des tornades ont par ailleurs été observées dans le centre et le sud de la Floride, selon la chaîne Weather Channel. Les habitants se sont confinés en amont, à domicile ou dans des centres aménagés. Les aéroports de Tampa et Sarasota sont à l'arrêt. Milton devrait traverser la Floride d'ouest en est, selon le NHC, passant près de la ville d'Orlando où les parcs d'attractions de Disney World ont été fermés. Cet ouragan va être une tempête mortelle et catastrophique, a prévenu Dean Criswell, directrice de l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles. Il y a deux semaines, le passage dans le même secteur de l'ouragan Helen a fait au moins 236 morts à travers le sud-est des États-Unis, dont au moins 15 en Floride.
Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont eu mercredi une conversation téléphonique qualifiée de directe et productive, alors que la discussion continue sur la riposte d'Israël contre l'Iran, selon la Maison-Blanche. Les précisions avec Dili Diko.
Ces discussions continuent, a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, à propos de la riposte d'Israël à l'attaque de l'Iran qui a lancé 200 missiles vers le territoire israélien le 1er octobre. La Maison-Blanche doit encore publier un compte-rendu de l'appel auquel était associée la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris. Biden et Netanyahou ne s'étaient pas parlé depuis 7 semaines. Les États-Unis ont mis en garde Israël contre toute offensive au Liban qui ressemblerait à ce qu'il s'est passé dans la bande de Gaza. La veille, le premier ministre israélien avait menacé le Liban des mêmes destructions et souffrances que dans la bande de Gaza. Aussi, Joe Biden a déjà fait savoir qu'il est opposé à des frappes sur les infrastructures pétrolières de l'Iran. Mais Israël a encore promis hier une riposte à la récente attaque de missiles iraniens. « Notre réponse à l'Iran sera mortelle, précise et surprenante », a déclaré hier Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, qui ajoute que ceux qui tentent de nuire à l'État d'Israël en paieront le prix.
En Haïti, la violente attaque d'un gang la semaine dernière dans la localité de Ponsondé a fait 109 morts et plus d'une quarantaine de blessés, a indiqué un responsable local. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
L'énergie solaire hors réseau est la solution la plus rentable pour fournir de l'électricité d'ici 2030 à 400 millions de personnes sans accès à l'énergie, assure la Banque mondiale. Entre 2020 et 2022, ce secteur a déjà fourni 55% des nouvelles connexions en Afrique subsaharienne, où vit plus de 80% de la population non électrifiée. Cette énergie aidera à connecter les ménages, les entreprises, les PME et les services publics, favorisant ainsi le développement dans secteurs divers. L'économie de la Guinée équatoriale s'est contractée de 5,7%, principalement en raison du déclin du secteur des hydrocarbures, selon la Banque mondiale. Autrefois axée sur l'agriculture et le bois, l'économie est désormais très des hydrocarbures, car le secteur forestier n'optimise pas son potentiel en création d'emplois. L'institution exhorte à améliorer la gouvernance forestière et concevoir des instruments fiscaux efficaces. Pour terminer, la Banque mondiale a approuvé un nouveau cadre de partenariat pays pour soutenir une croissance économique durable de la Zambie axée sur le secteur privé entre 2020 et 2029. Ce plan veut se concentrer sur la création d'emplois, l'amélioration du capital humain et le renforcement de la résilience face aux défis climatiques. Il soutiendra des initiatives visant à réduire la pauvreté et les inégalités, surtout en milieu rural, et à améliorer l'éducation, la santé, la protection sociale, ainsi que l'accès et la qualité des services.
Les nouvelles sportives à présent avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Jürgen Klopp est nommé directeur du football chez Red Bull.
L'ancien manager de Liverpool a été nommé directeur des activités football chez Red Bull, a annoncé mercredi la société autrichienne, très impliquée dans le sport de haut niveau et qui possède trois clubs à Leipzig, Salzbourg et New York. Âgé de 57 ans, le technicien allemand qui a quitté Liverpool en fin de saison dernière prendra ses fonctions au 1er janvier 2025, selon le communiqué de l'entreprise de boissons énergisantes. D'après la même source, Jürgen Klopp, qui a redonné ses titres de gloire à Liverpool durant ses 9 ans sur le banc, remportant la Première Ligue et la Ligue des Champions, ne s'impliquera pas au quotidien dans la vie des clubs de la galaxie Red Bull, mais sera plutôt chargé de la vision stratégique. Cet été, l'Allemand a exclu d'entraîner à nouveau dans un futur proche. Selon la chaîne Sky Germany, le contrat de Klopp avec Red Bull contient toutefois une clause de départ s'il a l'opportunité de devenir sélectionneur de l'Allemagne.
Et puis Eric, des supporters de Valence visés par une enquête à Singapour pour avoir critiqué le propriétaire du club.
Un couple de touristes espagnols en lune de miel en Asie fait l'objet d'une enquête à Singapour après avoir manifesté contre le propriétaire de leur club de foot de Valence, Peter Lim, originaire de la cité-État. Vendredi, la police a empêché Dani Cuesta et son épouse Mireia Saez d'embarquer à l'aéroport de Singapour sur un vol à destination de Bali. Elle leur a demandé de ne pas quitter le pays, a expliqué de son côté la maire de Valence, Maria José Catala, mardi sur la radio Onda Cero. Une plainte a été déposée contre eux et leurs passeports ont été saisis, a déclaré un porte-parole de la police de Singapour. Dani Cuesta avait posté des photos de lui sur les réseaux sociaux depuis différents endroits de Singapour où il brandissait une petite banderole jaune et noire clamant « Lim, rentre chez toi ». Peter Lim, l'un des Singapouriens les plus riches, a racheté en 2017 le club de Valence qui croulait sous les dettes, faisant de lui le premier propriétaire étranger du club.
Ici, en WNBA chez les dames donc, Minnesota rejoint New York en finale.
Les Minnesota Lynx ont rejoint le New York Liberty en finale du championnat WNBA en dominant le Connecticut Sun lors du 5e match décisif en demi-finale mardi à Minneapolis. Minnesota visera en finale un premier titre depuis 2017 qui serait le 5e depuis la création de la WNBA en 1996, un record.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Le corps d'une étudiante congolaise qui fréquentait l'université des Trois-Rivières au Québec a été retrouvé hier sans vie dans une rivière près d'une semaine après sa disparition. La disparition justement d'Alexandra Lumbayi, 21 ans, a suscité une vive émotion dans la communauté africaine de la ville. Eddy Sango a joint au Québec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Joska Kabongo Ngoy.
Nous avons été saisis de cette affaire le dimanche 6 octobre à 18h. Aussitôt que nous avons eu connaissance de cette affaire, nous nous sommes engagés par des voies diplomatiques pour essayer de pouvoir faire ce qui est mieux, de manière à ce que la vérité soit connue et que la personne soit retrouvée. Mais malheureusement, elle a été retrouvée, mais avec un corps sans vie.
Il y a une autopsie.
Ce qui est fait maintenant, nous avons demandé aux autorités compétentes du Canada, que je remercie par votre intermédiaire, de pouvoir procéder à l'autopsie. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais nous avons aussi demandé à ce qu'on puisse associer la police scientifique. Et cela pourra nous permettre de comprendre les circonstances de cette disparition qui nous paraît un peu floue.
Justement, à ce sujet, la communauté, non pas seulement congolaise, mais africaine, est en train de bouger. On parle de la non-assistance à la personne en danger. En fait, qu'est-ce que vous savez par rapport à ceux qui travaillent à ces parcs depuis?
Pour l'instant, souffrez que je ne puisse pas vous en dire trop, parce que nous sommes dans une étape où les enquêtes sont en cours. Je crois qu'au moment opportun, nous allons, si cela sera possible, donc nous allons, disons, révéler si c'était réellement passé. Je me suis rendu personnellement moi-même sur les sites. J'ai trouvé que c'est un site qui, disons, avant d'entrer, est soumis à un paiement, et c'est un site qui permet aux gens de venir se détendre ou peut-être méditer, mais aussi un site où les gens peuvent venir pour organiser de diverses manifestations. Bon, notre fille s'est retrouvée là-bas. Dans quelles circonstances? Pour quelle fin? Là, nous n'avons pas encore de réponse.
Joska Kabongo Ngoy, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Québec.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Burkina Faso, deux jeunes ingénieurs ont mis sur le marché depuis quelques années la TerraBox. Il s'agit d'une boîte à outils électrique ayant un suivi à distance et qui permet de fournir de l'électricité solaire aux ménages peu nantis ou vivant dans les zones rurales. Le reportage de Gildas Da depuis Ouagadougou.
Dans les locaux de l'entreprise Alliot System, les techniciens sont à la tâche pour finir le montage d'appareils appelés TerraBox. Ce sont des box conçues pour fournir les ménages en électricité solaire, selon Abdallah Dissa, directeur général de Alliot System.
C'est la box TerraBox qui inclut donc l'électronique, le système de contrôle, le système de paiement Paygo, la communication à distance et voilà les différentes connectiques pour aller donc distribuer l'énergie dans la maison et aussi le panneau solaire qui va donc produire l'énergie journalière, stocker dans la batterie à l'intérieur et pouvoir aussi injecter au cours de la journée.
La box est fournie avec un ensemble de matériel, dont une radio, une télé, un ventilateur et des ampoules.
On s'est dit qu'au minimum, quand on a de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait d'abord avec? Il faut de l'éclairage pour la sécurité du foyer, permettre aux élèves d'étudier. Et suffisamment d'éclairage, parce que c'est pas seulement pour les élèves. La ventilation que j'avais oubliée, qui permet donc d'avoir dans nos pays chauds, là, d'avoir quand même quelque chose pour un confort minimal. Donc voilà, l'éclairage, la ventilation, la télé, une torche aussi, et puis une radio. Enfin, tous ces produits sont inclus dans ce kit-là.
Nous avons rencontré cette cliente. Abibou Zundi habite à Tabtenga, une zone d'habitat spontané sans électricité dans la périphérie de Ouaga.
La box a beaucoup d'avantages. Depuis que je l'ai, nous ne dormons plus dans le noir. On a désormais de la lumière. Je n'ai pas eu de problème avec le matériel, hormis mon poste radio qui était tombé en panne. Mais ils sont venus le réparer. Mes enfants, eux, peuvent suivre la télé à tout moment. Ça a été très bénéfique pour moi.
Noé Nabaré lui a installé la Terrebox dans son commerce pendant la période de délestage qu'a vécu Ouagadougou. Et Terrebox a reçu la certification Virasol, ce qui signifie que le produit répond aux normes internationales. Selon Abdallah Dissa, plus de 30 000 box ont déjà été vendus au Burkina et dans 5 autres pays de la sous-région ouest-africaine. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La plupart des hôpitaux de la région de Khartoum au Soudan ont été détruits ou évacués alors que les combats dans la capitale se poursuivent. VOA a eu un accès rare à un hôpital encore en service dans la région, ainsi qu'à un autre hôpital ravagé par les affrontements. Les organisations de défense des droits humains affirment que les responsables de cette destruction doivent être tenus responsables de crimes de guerre. C'est un reportage de Henry Wilkins, le récit avec Eric Manirakiza.
Nida Abdelmonim Abdellahim a été blessé lors des tirs croisés dans la région de Khartoum début septembre.
Les balles étaient partout sur mon corps, mes mains, mon ventre et mes jambes. J'ai perdu beaucoup de sang. Mes deux jambes ont été touchées. Elles sont toutes les deux cassées. De plus, un orteil a été amputé sur ce pied et deux autres sur l'autre pied.
Et les patientes à l'hôpital Al-Nao, l'un des rares établissements encore en activité à Khartoum, une capitale dévastée par la guerre civile au Soudan. Selon l'OMS, seuls 16% des structures de soins primaires étaient encore fonctionnelles dans la région de Khartoum en juillet, citant les autorités sanitaires locales. Les avocats spécialisés en droits humains affirmaient que les deux parties au conflit, les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide, sont responsables de la destruction des hôpitaux. Christian DeVos, professeur adjoint à la City University of New York School of Law, suit de près la situation au Soudan.
Les hôpitaux ont fait l'objet de bombardements aveugles. Il existe des raisons de croire que cela a été perpétré tant par les forces des FCR que par les forces des FAS.
Lors d'un récent voyage à Omdurman, de l'autre côté du Nil, à partir de Khartoum, VOA a visité l'hôpital des Chinois qui a été saccagé depuis le début de la guerre. Cet hôpital est sous le contrôle de l'armée soudanaise. Ils affirment avoir repris le contrôle aux forces paramilitaires des FSR en février de cette année. Il n'est cependant pas clair quel camp est responsable de la destruction de l'hôpital. Les groupes de défense des droits affirmaient que l'utilisation militaire des hôpitaux est interdite par le droit international. Cependant, selon Laetitia Bader de Human Rights Watch, ce ne sont pas les forces gouvernementales qui sont principalement responsables de l'occupation illégale des hôpitaux.
En ce qui concerne l'occupation des hôpitaux, cela relève beaucoup plus des FSR.
Laetitia Bader déclare que cette action a été révélatrice du mépris manifesté à l'égard des hôpitaux au Soudan, ce qui pourrait constituer un crime de guerre. Dans un communiqué, les FSR ont déclaré à VOA que les forces de soutien rapide n'ont ni occupé ni détruit aucun hôpital. Ces accusations sont totalement fausses, ajoute le communiqué, imputant les violations aux forces gouvernementales.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump et nombre de ses partisans affirment que les élections de 2020 ont été truquées et préviennent qu'il pourrait en être de même cette année. Les responsables électoraux démocrates et républicains du Michigan contestent ces affirmations et s'efforcent d'assurer aux Américains que leur vote est sécurisé. Du Michigan, le reportage de Patsy Widaskuswara, chef du bureau de la Maison-Blanche, récit Michel Joseph.
Ça s'est passé à Détroit, dans le Michigan, le jour de l'élection en 2020. Les partisans de Donald Trump, alimentés par ses allégations infondées de fraude électorale, ont fait pression sur les fonctionnaires pour qu'ils cessent de compter les votes. De nombreux partisans de Trump dans le Michigan s'inquiètent de la fraude lors des prochaines élections. Marvin Minton, partisan de Trump.
En ce moment, notre gouvernement est remis en question à tous les points de vue. J'aimerais pouvoir dire le contraire, mais ce n'est pas ce qui ressent l'Amérique. Nous ne faisons confiance à personne.
Angelica Kando, partisane de Trump.
One case.
Un cas, un seul cas à remettre en cause tout le système.
Les allégations selon lesquelles l'élection de 2020 a été truquée ont été démenties à plusieurs reprises par les tribunaux américains. Mais la remise en cause de l'intégrité des élections a gagné du terrain dans le camp républicain, plus enclin à faire confiance à Trump qu'à des résultats certifiés par les autorités locales. Les responsables des États où se déroulent les élections s'efforcent d'assurer aux électeurs la sécurité du processus électoral et estiment que la désinformation peut être dangereuse. Jonathan Brater, directeur du Bureau des élections du Michigan.
Ils peuvent dans certains cas conduire à des menaces à l'encontre du personnel électoral, voire pire. Mais même si cela n'aboutit pas à une quelconque violence physique, cela mine la confiance à long terme dans le système électoral, ce qui est mauvais pour notre République et notre démocratie.
Dans de nombreux États, les républicains soutiennent les efforts visant à garantir aux électeurs la sécurité des élections, y compris Justin Roebuck, un agent électoral républicain du comté d'Ottawa, dans le Michigan. Selon lui, il s'agit d'une bataille difficile.
Nos dirigeants politiques à tous les niveaux doivent rechercher des faits et des données. Et je pense que tant que cela ne sera pas le cas, nous aurons un problème de confiance dans le processus.
Dans le Michigan, des loyalistes de Trump ont déjà poursuivi la secrétaire d'État Jocelyn Benson, une démocrate, à propos des lignes directrices relatives au traitement des bulletins de vote par correspondance et la liste d'inscription des électeurs. Peter Hoekstra, président du Parti républicain du Michigan.
Si Jocelyn Benson ne répond pas aux exigences de la loi, nous l'assignerons en justice pour que les tribunaux l'obligent à le faire.
Jocelyn Benson a estimé qu'il s'agissait d'une stratégie de campagne républicaine.
En général, nous constatons que les poursuites se font passer pour une stratégie juridique alors qu'il s'agit en réalité d'une stratégie de relations publiques visant à diffuser des informations erronées ou à semer le doute sur nos élections.
Les républicains et les démocrates ont intenté des actions en justice liées aux élections dans plusieurs États, ce qui pourrait se traduire par un chaos lors des élections de novembre. Kim Wyman, chargé de mission au Bipartisan Policy Center Election Project.
Tout type de contestation juridique intervenant si près d'une élection est généralement le fait d'avocats qui mettent en place une garantie au cas où ils ne gagneraient pas dans un État ou n'obtiendraient pas le résultat qu'ils souhaitent, ce qui leur donne la possibilité de contester l'élection a posteriori.
Il existe d'autres risques potentiels, notamment des efforts fournis par des fonctionnaires du comté qui soutiennent Trump pour retarder la certification des élections. Ne manquez pas Dan Defulbe de ce vendredi 11 octobre à partir de 16h30 TU. Au menu, l'accès à l'éducation dans les zones rurales en Afrique. Tiernomo Doumba en parle avec le sociologue et ancien ministre guinéen de l'éducation, le docteur Amadou Bano Bari. La situation des étudiants africains en France avec des témoignages. Dan Defulbe, c'est l'émission qui vient vers vous à travers des reportages proches de vos réalités. Dan Defulbe, c'est tous les vendredis de 16h30 à 17h TU en FM sur voaafrique.com, Facebook, WhatsApp et à travers nos radios partenaires en Afrique.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, Georges Léonard Sagnou à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voaafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.